L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, je vous invite à rencontrer Henri Land. Je l'ai rencontré sur un événement où il animait une conférence sur la souveraineté alimentaire. Il était également conférencier sur la transition écologique, enseignant en Sciences Po. Il a dirigé Good Planet, la fondation de Yann Arthus-Bertrand pendant un an. Il a été cofondateur de Climates, que nous avons déjà rencontré ensemble. Auteur et co-auteur de plusieurs livres, dont un qui est sorti récemment. Et tant de choses encore, on pourrait le présenter et présenter ses actions pendant toute une émission entière. Mais on va simplement lui demander de quel constat et de quelles solutions il a envie de parler avec vous. Henri Land, bonjour.
Bonjour, ravi d'être avec toi.
Alors il y a une chose que j'ai oublié de dire et je crois que c'est celle qui te tient beaucoup à cœur, c'est ton retour à la terre en Auvergne avec ton projet Landestini et tes coupes du potager dont nous parlerons. Mais avant ça, Henri Land, on dit Land ou Landes?
On dit Landes parce que c'est le nom de mon père américain, Landes, mais j'en veux à personne quand on dit Land.
Alors, pour toi, quel est l'enjeu de la transition écologique et pour toi, les moyens d'y parvenir?
L'éducation tout au long de la vie, des modes de vie sains et des modes de vie écologiques, éco-responsables et heureux. Si je devais choisir une seule phrase pour répondre, ce serait celle-là. L'éducation à cette transition écologique, à cette importance de la santé. C'est ce que je fais avec Landestini, qui est l'association et l'organisation à but non lucratif que j'ai créée il y a quelques années, qui accompagnait mon changement de vie. C'était une action personnelle, familiale et tournée vers les autres, en toute humilité, pour accompagner dans une reconnexion à la terre, à la santé, à la nature et même à la ruralité. Et donc cette éducation, elle est polyvalente, elle a plusieurs sens. Mais elle appelle à l'action ensuite, c'est-à-dire que j'ai été très inspiré par le changement de vie, d'habiter sur une ferme en Auvergne. En plus, je viens de New York et San Francisco, puis j'ai vécu 10 ans à Paris, très loin de ce type de milieu et très loin de la nature, du monde agricole, de la production. Et j'étais très inspiré de faire ce changement. J'étais ensuite vraiment au quotidien dans une démarche d'acquérir des nouvelles connaissances. Donc c'est là où je parle de cette éducation, inspiré, ensuite éduquer, apprendre des choses et ensuite faire des choses. C'est-à-dire que je suis ensuite de manière constante dans l'action parce que élever des animaux, même si on a un petit cheptel, que ce soit le poulailler ou les chèvres, cultiver un potager qui grandit pour le coup, on a peut-être 1000 mètres carrés quand même de potager et une cinquantaine d'arbres qu'on a plantés en quelques années dans un verger donc d'arbres fruitiers. Nous avons une constante action en même temps que faire des projets ailleurs, associatifs, monter des projets éducatifs avec les établissements scolaires et d'autres structures. Donc je suis ravi de parler de ça aujourd'hui, mais si je devais résumer, encore une fois, c'est une sorte d'éducation tout au long de la vie qui est sur ces questions écologiques et de santé.
Il y a aussi éduquer les politiques, ça tu y travailles encore aussi?
Les politiques publiques et la politique au sens faire évoluer positivement la société, c'est une passion pour moi. Et j'ai aussi la chance de travailler avec des responsables politiques de deux côtés du spectre, pas avec les extrêmes, mais du deux côtés du spectre, pour que nous avancions sur comment les collectivités territoriales s'engagent, améliorent leurs actions, et pour que des organismes au niveau de l'État et au niveau national. C'est vrai que je ne suis pas éloigné de l'Union européenne et de la sphère internationale, Mais depuis que je vis dans la ruralité, c'est un petit peu moins accessible d'un point de vue géographique, mais aussi, je pense, dans la conscience, même si je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut une Union européenne extrêmement forte, d'autant plus face aux États-Unis. Je suis franco-américain et je suis très inquiet pour ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, c'est le moment, c'est pas le sujet de notre discussion principale, mais c'est le moment pour que la France et l'Union européenne soit forte là et sur les questions de transition écologique et d'éducation et de santé.
Tu agis pour changer les habitudes, pour acculturer, on va dire, aux enjeux de demain via Landestini, cette association que tu as créée, et ces Coupes du Potager, cette initiative assez originale qui a fait que j'ai découvert ton existence. De quoi s'agit-il ?
Pour moi, il est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. C'est-à-dire que nous devrions apprendre tout au long de la vie, dès la petite enfance, même en dessous de 3 ans, comment mettre les mains dans la terre, d'où vient la nourriture, comment est-ce qu'elle arrive dans notre assiette. La Coupe de France du potager et la Coupe du monde du potager est un concours et une animation pédagogique. Elle est joyeuse, elle n'est pas rude en compétition. On est gagnants tous quand on met les mains dans la terre. Elle incite, inspire, donne envie et ensuite accompagne, anime des outils pédagogiques et des séances pédagogiques sur la création et l'entretien d'un potager. Les écoles de la maternelle jusqu'au lycée, on a les crèches qui sont bienvenues aussi, des structures jeunesse, on a même des clubs de sport et spécifiquement des clubs de tennis qui participent. Elles créent un potager, elles l'entretiennent. On fait des webinaires pour donner des conseils à distance pour que tout le monde puisse en profiter parce qu'on n'est pas partout sur le terrain, partout au niveau national et mondial. On ne pourrait pas faire ça. On a une utilisation très efficace de cette capacité à animer à distance. Et en même temps, on se rend sur le terrain dans ces établissements pour faire des animations avec les enseignants et aussi avec les élèves. On réalise que c'est une salle de classe comme une salle de classe avec 4 murs, le potager, mais c'est à ciel ouvert, c'est polyvalent, c'est concret, c'est joyeux dans le sens où on voit pousser des fruits et des légumes après peu de temps, c'est accessible à toutes et tous, on n'a pas besoin d'avoir la main verte, je ne l'avais pas moi-même, j'ai commencé à faire du potager après l'âge de 30 ans et je ne considère pas que je suis expert aujourd'hui parce que je suis très humble face à cette belle complexité, mais cette belle symbiose que montre la nature, comment les plantes interagissent avec le sol, les micro-organismes, la biodiversité au-dessus du sol, c'est fabuleux. Et on apprend sur les sciences de la vie et de la terre, on apprend aussi sur le climat, on apprend sur la biodiversité, mais on apprend aussi sur la santé. Et ça crée du lien social. On a extrêmement de positif, on a beaucoup de positif qui vient quand on met les mains dans la terre et on cultive un potager. Et j'ai même envie de dire que sur le plan des disciplines et des compétences que l'éducation nationale met en avant à juste titre, on est très très fort avec un potager. On fait beaucoup d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on a des participants qui sont des enseignants de français, des enseignants de langue, arts plastiques, histoire, géographie, pas seulement les enseignants de SVT, qui se lancent dans cette aventure pédagogique parce qu'ils réalisent qu'on peut tout faire dans un potager. Ce qui veut dire que la Coupe de France du potager, c'est à la fois une expérience pour apprendre sur l'alimentation saine, mais c'est aussi quelque chose qui nous fait questionner au bon sens du terme comment on pourrait faire l'éducation. Je me réjouis que ce n'est pas juste la Coupe de France du potager, c'est une parmi plein d'initiatives qui depuis des décennies, j'ai envie de dire, augmentent progressivement, mais là il y a une très belle prise de conscience que aller faire l'école dehors, dans la forêt, faire de l'établissement un refuge pour les oiseaux et la biodiversité en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux, travailler avec l'association Terre Agir sur le label éco-école, mais donc dans une démarche globale de transition écologique, je me réjouis de voir que ça augmente. Ce qui est difficile à accepter, c'est que quand il y a des urgences ou des problèmes qui sont liés à la sécurité, qui sont liés à la géopolitique, qui sont liés à les économies budgétaires, souvent, on réduit en priorité la partie éducation à l'environnement et la nature. Il ne faut surtout pas faire ça parce qu'au contraire, on va avoir des conséquences encore plus graves d'un point de vue cohésion au sein d'un établissement, au niveau de la santé et du bien-être des jeunes. Et ça, ça va ensuite avoir un impact négatif sur justement ce qu'on essaye d'éviter et de gérer en urgence. Il faut se dire que ça doit être un constant, l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation. Il faut l'augmenter pendant les périodes de crise et surtout pas les réduire.
Des potagers, il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire un potager dans une école. Il peut y avoir une méthode toute bête qui va être de planter quelque chose, regarder que ça pousse et dire qu'on est content, qu'on a fait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu apportes des supports pédagogiques pour, parce que tu parlais du climat par exemple. C'est pas évident à première vue qu'on puisse parler climat quand on plante le potager. Par exemple, sur cette question du climat, qu'est-ce que tu apprends?
Comme a été sous-entendu, le climat dans les Hauts-de-France, le climat en Corse, le climat dans un autre pays qui participe avec beaucoup de participants. On va prendre, c'était super, une surprise, l'Ouzbékistan. On a eu plein d'écoles en Ouzbékistan qui ont participé à la Coupe du Monde du potager. Ces climats sont tous différents. Et en plus, il y a des microclimats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, Landestini, on ne donne pas des consignes qui sont pareilles pour les territoires, absolument pas. On donne un guide du potagiste, ça s'appelle, qui permet de commencer, qui permet de se poser les bonnes questions, qui permet de savoir un petit peu les outils de jardin, hein, pas les outils pédagogiques qu'il faut, les outils cognitifs, c'est-à-dire est-ce que je me pose la question de l'emplacement? Est-ce que je me pose les bonnes questions autour des sols et leur qualité et comment les sols sont composés? Parce qu'on peut avoir des sols plus ou moins argileux, par exemple. Est-ce que je me pose des bonnes questions sur comment être économe sur l'eau et comment vérifier qu'il y a suffisamment d'eau pour les plantes? Donc, on donne plein de clés pédagogiques. Dans ce guide, on a ensuite un formulaire d'évaluation qui est très dense. Il est parfois considéré un peu lourd, mais en fait, les enseignants quand même le reconnaissent positivement. Ils se disent, c'est très pédagogique, votre formulaire d'évaluation. C'est ce formulaire d'évaluation qui a plein de rubriques différentes sur le climat, sur la biodiversité, sur la qualité des sols, sur la partie production, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi un potager qui arrive à produire un petit peu, même si ce n'est pas le volume du tout qui compte. L'esthétique, on a des questions autour de l'esthétique, une rubrique là-dessus, parce que quand le potager il est beau, quand il est très coloré, ça apporte aussi du bien-être. Il y a des études scientifiques qui montrent le lien entre la couleur et la proximité à la couleur aux espaces verts et le bien-être et la santé morale des personnes. On a plein de rubriques différentes dans ce formulaire d'évaluation qui ensuite permet à un jury d'évaluer et de donner le plus de récompenses possible dans cette coupe du potager. Donc on fait à la fois de l'animation sur le terrain, où on vient avec un expert potager, on fait des séances sur comment est-ce qu'on devrait désherber, comment est-ce qu'on devrait pailler, comment est-ce qu'on devrait faire le compost, etc. On fait des webinaires à distance, à peu près une fois par mois. Et ensuite, on a un guide du potagiste et un formulaire d'évaluation. Ça fait déjà une animation assez lourde pour des enseignants qui ont beaucoup de travail à faire, pour des clubs de sport dont le métier, c'est principalement d'éduquer au sport, ou pour des structures jeunesse qui n'ont pas les enfants tout au long de l'année. Et avec ça, déjà, on a un très beau programme qui est en plus avec des récompenses à la fin. Donc j'invite tout le monde qui écoute de se demander est-ce que mon école ou ma structure jeunesse à proximité ou mon club de sport pourrait participer à cette Coupe de France et cette Coupe du Monde du potager.
Bon, on vous invite à aller voir sur le site Landestini, vous renseigner, allez voir, donc Landestini, L-A-N-D-E-S-T-I-N-I. On va faire une petite pause musicale, Henri Landes. Tu as envie d'écouter quelque chose en particulier?
J'ai déjà recommandé cette chanson que j'adore, qui est à la radio et je le refais. Elle a été un peu importante pour moi dans mon changement de vie. Marley Gaumont, elle s'appelle cette chanson. Une petite chanson de rap qui est par contre du rap extrêmement joyeux et drôle. Camini, cet artiste, un jeune homme noir dans la campagne française qui décrit comment sa famille en plus est arrivée en France. Il a été vraiment très très bon et j'adore cette chanson qui valorise les territoires ruraux français et la diversité territoriale. Ouais.
Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Perdeau. m'appelle Kamini. Je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait. À Marly Gaumont, y'a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. Trois jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux. Une seule famille de noirs, fallait que ce soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar, j'ai dit à mon père, on aurait pu aller s'installer à Moscou, non? On aurait pas trop été dépaysé par la température ni par les gens? Il m'a répondu, hé, mais comment ça, mais tu te moques de moi, toi, mais ça va aller, hein? Tu parles, j'avais 6 ans, premier jour d'école, et ben j'ai chialé à cause des petits cons là-bas, tu sais comment ils m'appelaient? Hé, mon boulot, hé, pépito, hé, mon boulot, hé, noir, hé! Dans la bouche des enfants, réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. À Marly Gaumont, les gens ils parlent pas verlan. Ils parlent en gros comme je, des maths bidons. Des fois ils t'aiment bien.
J'aime pas les arabes, hein. J'aime pas les noirs. Mais toi je t'aime bien, même si t'es noir.
De temps en temps il faut de la politique aussi, avec plein de philosophie.
De toute façon moi je dis, tout est pour rien.
Dans les petits patelins, faut pas être cardiaque, ah ouais sinon t'es mal. Faut traverser ma village en tout 50 bandes pour trouver un hôpital, que dalle. Là-bas y'a rien, c'est les pâtures. Des fois y'a un match de foot le dimanche, le stade c'est une pâture. Sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés et les filets. Et dans l'équipe du coin y'a toujours un mec qui se fait surnommer Kéké.
Allez Kéké, allez Kéké.
Si c'est pas Kéké, dans l'équipe d'en face y'a toujours un mec qui s'appelle Biquet.
Allez Biquet, allez Biquet.
Une journée type dans le coin, le facteur, un tracteur. Rien.
Alors nous sommes de retour avec Henri Landès, on l'a vu, tu essaies de provoquer ce retour à la terre, de mettre les mains dans la terre pour avoir peut-être une connaissance fine des choses, de la nature, de son fonctionnement pour les enfants et pour tout le monde. Mais ce retour à la terre, toi tu le vois aussi comme un projet plus vaste et c'est je crois l'objet de ton dernier livre. Pour toi ce retour à la terre, c'est ça aussi qui fait la transition qui peut faire la transition écologique, qui peut faire l'adaptation au changement climatique, c'est ça ?
Repeupler les campagnes, comment répondre à l'urgence écologique à travers un exode urbain, c'était le titre de ce livre que j'ai écrit avec grand plaisir, où je voulais parler de la valeur des campagnes, des territoires ruraux, qui est sous-estimée dans cette transition écologique. On ne peut pas décorréler comment le peuple, comment la population peuple les territoires avec notre capacité à vivre de manière éco-responsable, premièrement. C'est-à-dire que si nous sommes trop densément peuplés sur un espace sans prendre en considération qu'est-ce que cet espace a d'un point de vue écologique, et on est insuffisamment dans un autre territoire où justement il y a des personnes qui produisent des choses en lien avec la nature, dont les agriculteurs, mais aussi des artisans, on ne va pas comprendre globalement comment on fait cette transition écologique, déjà de la manière la plus efficace, voire du tout. C'est-à-dire que c'est insoutenable d'être trop densément peuplé dans des immenses villes avec aucune capacité de production en lien avec sa population. Certes, on a des flux, très bien, et jusqu'à l'échelle mondiale, et on sait ça. Mais est-ce qu'on a une autonomie quand les choses sont difficiles ? Non. On a des études qui montrent que les grandes métropoles ont une autonomie, par exemple, alimentaire de 2 jours, 48 heures maximum. C'est des études du cabinet Utopie, par exemple, mais de plein d'autres structures. Déjà, donc, c'est important, c'est très important, d'un point de vue lien entre la production et la consommation, de revoir un petit peu comment on est peuplé sur le territoire. Parce que quand j'ai changé de vie et je suis allé vivre à la campagne, comme plein d'autres personnes qui l'ont fait, mais je ne dis pas que c'est facile, on y reviendra sur comment peut-être faire, mais j'ai tout de suite été confronté aux réalités des ressources. Les agriculteurs, je les connaissais tous, chez qui j'achetais des produits. Moi-même, je produis maintenant une partie de ma nourriture, avec ma femme et ma famille et mes garçons en profitent aussi. J'ai tout de suite vu ce que c'était l'artisanat autour du bois. L'artisanat autour du fer, l'artisanat autour le matériau, je veux dire. Hein. Et j'ai compris aussi la consommation d'eau très différente. Je vais même chercher l'eau potable dans une source. Ce n'est pas pour dire qu'il faut faire comme ça sur tous les territoires ou dans toutes les circonstances.
Et qu'on ne pourra pas mettre une population mondiale aussi exponentielle répartie sur les campagnes. Il est important qu'il y ait encore des centres avec un peu justement de densité.
Absolument, je parle de...
Sinon on irait miner justement les terres agricoles si on remettait tout le monde à la campagne.
Alors, ensuite, votre question, elle est intéressante sur est-ce que aussi les métiers doivent changer. Je suis favorable à ça aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait continuellement une baisse du nombre d'agriculteurs, et une baisse du nombre d'artisans, une baisse du nombre de personnes dans l'économie réelle, notamment secondaire, ou la distribution tertiaire, par exemple, les boulangers, les bouchers, les personnes qui sont en lien direct aussi avec les consommateurs. Ça doit réaugmenter, on doit redonner du sens à ça, une valeur financière. Et je trouve que si on repeuple les campagnes un peu plus, parce que vous l'avez bien dit, je ne parle pas de prendre trois quarts des personnes dans les villes et les encourager à aller dans la campagne. Au contraire, je suis pas en train de parler d'un équilibre à trouver sur les cinq décennies à venir pour qu'on arrive vers du 40-60%, ce qui serait un immense rééquilibrage, mais qui n'est pas très éloigné par contre de ce qu'était la France avant. Je ne pense pas que la plupart des personnes souhaitent être à un bureau toute la journée ou la plupart de leur journée professionnelle, premièrement. Je ne pense pas que la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est bon pour la santé. Et je pense aussi que l'être humain aime bien faire un petit peu de physique et de manuel, un petit peu de cérébral, de communication et de lien social, et un petit peu de sport ou de temps pour soi, et de famille évidemment. Je pense que ça, on pourrait le mettre en place, on pourrait le favoriser progressivement. Du jour au lendemain, non. Mais est-ce qu'on pourrait commencer à parler de ça? Absolument. Est-ce qu'on en parle? Pas beaucoup. Il faut pas, on n'a pas beaucoup de discours autour de la diversification des activités humaines. On a plutôt un discours autour de comment on reste compétitif et on continue de suivre le train de l'innovation technologique. Pour revenir sur les questions écologiques, je suis ainsi beaucoup plus à même aujourd'hui de parler de mon empreinte écologique globale, mais surtout je suis aussi dans une dynamique de contribuer à régénérer de la biodiversité avec les terrains que nous avons. De comprendre qui sont et d'où viennent les produits alimentaires que nous achetons et que nous consommons. Et je suis aussi beaucoup plus conscient de tout ce qui a à voir avec l'aménagement d'un espace, l'habitat, la partie production alimentaire, mais aussi la partie production et consommation énergétique. Parce que je les vois davantage, je ne suis pas juste une personne citadine qui arrive chez moi, qui allume, qui ne comprend même pas quelle électricité arrive dans la maison, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être éco-responsable en ville, je suis en train de dire qu'on peut aller beaucoup plus loin et on est tout de suite confronté à davantage, je trouve, de prise de conscience écologique quand on vit dans un espace avec plus de naturalité autour.
C'est redonner du sens en fait à notre culture matérielle finalement, à ce qu'on consomme et renouer le lien et pas être désincarné par rapport à la nature.
Absolument. La consommation matérielle, déjà, je ne la vois pas du tout comme une fin en soi. Et là, c'est vrai, je la remets en question très fortement. Je considère qu'on a fabriqué suffisamment de choses aujourd'hui pour l'humanité, en grande partie. Et donc, ça, je regrette qu'il y ait encore énormément d'obsolescence programmée et de dépendance de l'être humain s'il veut rester actif dans la plupart de ses activités professionnelles et même sociales, qui soit obligé de renouveler une certaine consommation matérielle périodiquement. Ça, honnêtement, pour le dire des choses de manière un peu crue, ça me saoule. Je parle pas juste du téléphone, mais je parle aussi d'éléments qui vont dans l'habitat, le véhicule, etc. Et j'ai l'impression, en plus, que malgré une prise de conscience sur l'obsolescence programmée et de l'économie circulaire, je suis pas sûr que dans certains secteurs, on n'ait pas même augmenté la dépendance de l'être humain sur le fabricant et sur la machine, plutôt que l'encourager à continuellement savoir le réparer lui-même, notamment les véhicules et certains équipements.
Mais toi, tu es franco-américain, donc tu as quand même aussi, je suppose, à partager avec nous une vision plus globale des choses. Quel est ton sentiment sur l'international et sur les choses à faire, à changer?
À l'international aujourd'hui, on est dans une période difficile, parce que nous avons plusieurs chefs d'État qui sont à la fois sceptiques et dubitatifs, c'est un gentil mot d'ailleurs, sur l'action en faveur de la préservation de l'environnement, du climat, de la biodiversité. Et deuxièmement, effectivement, on a même un rapport à la vérité, à la science, qui est extrêmement néfaste pour que ces deux choses, la science et la vérité, maintiennent une place importante et dans la civilisation humaine. La liberté, même la démocratie, en ce qui concerne les États-Unis, est absolument bousculée. explicitement. Je ne m'attendais pas à ça, à vrai dire. Je m'attendais à ce que nous ayons aux États-Unis clairement de nouveaux défis avec la réélection du président. Mais je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant d'attaques vraiment sur des institutions et des fondements de cette démocratie. Donc je suis inquiet, mais je demeure complètement dans l'action et je n'ai même pas le temps de réfléchir à du pessimisme. En revanche, je dois être dit, et je pense devrait être dans nos consciences, c'est que c'est une période, mais une période peut avoir une fin. S'il y a des associations, des entrepreneurs, des entreprises, des personnes et des responsables politiques au niveau local et national qui refusent évidemment ce pessimisme et qui refuse le recroquevillement sur soi-même, qui continue d'être ouvert, altruiste, humaniste, eh bien on peut non seulement sortir de cette phase, mais en plus accélérer une transition écologique réelle. Mais il faut faire les choses, il ne faut pas dire, débattre, faire des tables rondes, écrire uniquement.
C'est quoi la clé pour passer à l'action, d'après toi ?
C'est déjà de se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement. Est-ce que j'ai envie de cultiver un potager ? Est-ce que j'ai envie de changer mes habitudes de consommation, mon rapport aux déchets ? Est-ce que j'ai envie d'aider une association, qu'elle soit locale ou nationale ? Est-ce que j'ai envie de voter différemment ? Est-ce que j'ai envie modifier mon rapport à la santé, mon activité physique ? Alors, tout ça, c'est joyeux, en fait, quand on s'engage dedans. Oui, parfois, on a l'impression que c'est contraignant. Oui, c'est difficile d'être à contre-courant, mais ce n'est pas toujours difficile. Parfois, c'est une joie aussi. Ça dépend du jour, de la réalité de chaque quotidien. Donc ça, ce n'est pas un problème, c'est comme tout, en fait. Et donc, moi, je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis fondamentalement engagé. Ça ne veut pas dire que je m'exclus des choses de manière permanente.
Mais on va dire que ta carrière, la carrière très prometteuse que tu pouvais avoir, a été un peu freinée. Tu as abandonné certaines choses pour un retour, mais donc ça, c'est une démarche personnelle, individuelle, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être à se forcer tous à redéfinir ensemble un projet commun, en posant vraiment les choses sur la table, en responsabilisant les gens, au lieu de les faire entrer, ce qui se passe allègrement, dans les punchlines, dans le populisme, dans les réponses immédiates et les vérités rapides.
C'est un projet collectif, mais au sein duquel il y a à la fois des choses à faire directement ensemble, mais aussi des actions individuelles. Il faut à la fois être heureux dans son engagement personnel, il faut être encourageant avec soi-même, et ensuite être très ouvert, altruiste, humaniste, et dans un projet commun absolument. Et le définir, je pense que ça, c'est à la fois un travail du bas vers le haut, mais c'est aussi exiger que des personnes qui sont des porte-parole à l'échelle nationale et même internationale, qui sortent un petit peu du cadre. Là, il faudrait être un petit peu plus ambitieux.
Par le vote, mais encore faut-il qu'ils se présentent et qu'ils soient portés par les médias.
Je vais continuer avec la Coupe du Monde, la Coupe de France du potager pour les années à venir, et je suis très heureux en faisant cela. On verra par la suite.
Alors on rappelle, il y a cette association Landestini et les coupes du monde du potager qu'on retrouve sur le site Landestini. Il y a ton livre et d'autres. Alors tu nous fais un petit état rapide, très très rapide de tes ouvrages.
J'ai donc repeuplé les campagnes, c'est le dernier. J'ai eu plaisir à écrire avec ma femme Fanny Agostini « Faites le plein de nature » il y a quelques années, qui précédait un petit peu notre changement de vie. Donc on retrouve un petit peu les principes de ce qui nous animait juste avant de se lancer. J'ai écrit un livre sur la politique américaine, justement, qui analysait les élections 2016, mais dans une optique historique et qui se focalisait sur les politiques de santé, les politiques écologiques. Allo Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère, parce que je l'étais, je voyais venir Donald Trump. Et avant cela, j'ai écrit un livre sur la politique climatique internationale, sur justement un peu l'arrivée des négociations sur la COP21, où je pensais qu'on était encore dans un déni climatique. J'ai écrit avec Thomas Porcher, l'économiste. Et donc ces quatre livres-là m'ont procuré énormément de plaisir, et je travaillerai sur un autre dans les années à venir qui fera aussi peut-être un autre angle.
Quel angle?
l'éducation tout au long de la vie comme une base et comme fil conducteur pour rénover l'ensemble de nos politiques publiques, je pense que ce sera l'angle.
Remplacer la télé par de la connaissance, ce serait pas mal.
Et encore, la télé, c'est le moindre mal aujourd'hui, hein, avec les écrans qui nous suivent partout. Mais je les rejette pas, hein, je les utilise pour plein de choses très utiles. Mais bon, oui, je ferai probablement un commentaire sur l'intelligence artificielle et les écrans et sur la place que ça devrait avoir dans notre société, probablement dans mon prochain ouvrage, oui.
Merci Henri Land, ou Landest plutôt, et pour quand tu veux, dans l'ours et la carotte. Au revoir.
Merci beaucoup, à très bientôt dans le potager.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.